de manière générale, s'associer entre femmes, c'est déjà quelque part, en tout cas dans nos sociétés patriarcales, faire contre-pouvoir d'une certaine manière. Et donc c'est en soi quelque chose de menaçant dont la société a tout intérêt à se prémunir si elle veut conserver finalement le fonctionnement actuel de la société. Avec donc à plusieurs âges finalement de notre histoire, plein de mécanismes qui sont mis en place pour entraver, pour casser finalement la possibilité d'amitié entre femmes.
Bienvenue chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine.
Aujourd'hui, pour ce 65e épisode, vous allez entendre l'enregistrement d'une rencontre avec Alice Rebaud, autrice et journaliste, à l'occasion de sa tournée bretonne pour son premier essai « Nos puissantes amitiés ». La discussion a eu lieu au café librairie Les Déferlantes à Morlaix, dans le Finistère, et c'est Lénaïque Jézéquel, la propriétaire de la librairie, qui la recevait. Dans « Nos puissantes amitiés », Alice Rebaud questionne le modèle de l'amour romantique hétérosexuel, comme seul modèle acceptable dans nos sociétés patriarcales, fait un retour historique sur les différentes relations d'amitié, parle bien sûr de la puissance des amitiés féminines, de vieillir entre femmes, et elle parle aussi des chagrins d'amitié que l'on n'évoque jamais et qui finalement n'existent même pas dans nos représentations. Et voilà, je vous laisse écouter ce super moment.
Merci pour ce livre. Moi, j'avais jamais lu quelque chose qui répondait à autant de questionnements que j'avais personnellement. Puis, vu le succès qu'il a ici et ailleurs, je pense qu'on était nombreux à être contents de voir ce livre. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton travail avant de rentrer dans le livre ? Est-ce que c'est un sujet que tu avais déjà exploré en tant que journaliste ou c'est quelque chose qui plutôt te passionnait au niveau perso et est-ce que c'est à part en fait ?
Moi je suis journaliste au Monde et je suis spécialisée autour des questions de jeunesse et notamment je traite beaucoup des questions de la vie intime des jeunes générations et c'est à partir de cet endroit-là du coup que j'ai vu un petit peu émerger, un peu pointer cette question-là de l'amitié dans les entretiens que je pouvais faire, dans ce que je pouvais lire, de ce que je pouvais écouter. C'était toujours par petites touches un peu l'envie de revaloriser les liens amicaux, mais jamais le sujet en tant que tel finalement, ni des articles, ni des podcasts, ni même des livres que je pouvais lire. Et du coup j'ai fait un premier article sur les jeunes générations et certains jeunes qui remettent au centre de leur vie leurs amitiés. Et en faisant cet article, je me suis dit, mais en fait, un article, ça va pas suffire. J'ai besoin de plus de place. Il y a encore plein de choses à explorer. Et notamment aussi, peut-être un vide à combler. Moi, j'étais très surprise en me lançant sur ce sujet de me rendre compte à quel point on manquait finalement de ressources sur l'amitié, et notamment dans la sphère francophone. Très étonnée aussi qu'il y ait très peu d'ouvrages féministes francophones qui existent sur le sujet, alors qu'on en parlera peut-être après, mais ça me semble être aussi un élément important finalement des luttes féministes. Et en fait, voilà, la plupart des ressources sur lesquelles je pouvais me baser, qui traitaient vraiment spécifiquement de l'amitié, souvent elles étaient plutôt datées des années 70-80, et généralement en anglais et pas traduites, donc pas accessible au public français.
On sent un gros travail de recherche. Tu cites beaucoup de livres que tu as lus, beaucoup de sources, beaucoup de livres qu'on a ici. Et tu abordes cette question de l'amitié sous un angle féministe. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est par rapport à tes convictions et tes luttes dans la sphère intime ?
Évidemment parce que j'ai une sensibilité féministe, mais aussi parce que je crois que l'invisibilité des amitiés, ce manque de texte aussi autour des amitiés, ce manque d'intérêt même pour la fiction finalement, pour l'amitié à part entière, c'est un élément politique en soi, parce que ça part d'une construction aussi de nos sociétés qui sont beaucoup construites autour de l'amour romantique qui serait censé primer, et donc du couple, de la famille dans lequel on doit investir tout son temps. Et je crois que, et notamment pour les femmes, en particulier pour les femmes en fait, qui sont présumées complètes si elles ne sont pas en couple, si elles ne s'accomplissent pas par le destin conjugal, par le destin familial. Et donc, aller regarder du côté de nos vies intimes, aller regarder du côté des autres relations intimes qui peuvent composer nos vies, sur lesquelles on peut aussi parfois construire nos vies, et bien je crois que c'est en soi en fait une démarche féministe. Et j'avais aussi à cœur, après avoir rencontré ces premières personnes qui m'ont expliqué comment elles remettaient l'amitié au centre de leur vie, comment elles repensaient leur manière de faire lien, de faire solidarité, parfois de faire famille autour de l'amitié, j'ai eu envie aussi d'ouvrir le champ des possibles, de montrer des récits qui présentent d'autres manières de construire sa vie, qu'il n'y a pas qu'une seule autoroute telle qu'on voudrait nous la présenter. Et souvent, ça répond à quand même pas mal d'enjeux féministes de notre temps.
Donc le sous-titre, c'est donc nos puissantes amitiés, des liens politiques et des lieux de résistance. Mmh. Donc on comprend quand on lit ton essai. Tu évoques déjà au début comment l'amitié a connu des âges plus valorisés, en fait, et comment c'est, ça date pas d'hier, mais comment la société d'aujourd'hui invisibilise et même dévalorise ces relations. Tu parles aussi beaucoup du modèle du couple, des autres possibilités aussi de vivre ensemble, de faire famille, et tu termines par aussi vieillir ensemble, entre amis, voilà. Quand on est enfant, et même quand on est ado, l'amitié c'est une place très très importante, et à partir du moment où on devient adulte, il y a comme quelque chose qui est non dit mais qui est vivement encouragé, c'est pour devenir adulte, voilà, faut se mettre en couple, faut avoir un métier, fonder une famille, et on dit souvent il y a un temps pour tout, comme si si on continuait à avoir une relation très solide avec ses amis, on restait finalement un grand enfant. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ça?
Je crois qu'il y a cette idée qu'une fois passer l'adolescence et même les premières années de vie étudiante, il faut un petit peu redevenir sérieux, se ranger, se caser, avec toutes ces expressions qui moi me font frémir et qui poussent donc finalement un petit peu à laisser de côté nos liens amicaux. Je crois que les personnes qui investissent beaucoup la sphère amicale, qui vont beaucoup sortir avec leurs amis, qui vont faire des choses avec leurs amis, sont un peu considérées comme des adultes manqués, dans certaines sphères en tout cas, et cela parce que la société nous encourage davantage, comme je le disais tout à l'heure, à poursuivre plutôt l'amour romantique, à justement trouver les possibilités de se caser, de trouver le prince charmant, de fonder une famille. Et d'ailleurs, nos représentations culturelles, tous les Disney, les films, etc., font un petit peu de cet arc narratif de quand on a trouvé l'amour romantique, finalement le film s'arrête, c'est comme s'il y avait un point final et que tout était comblé, tout était accompli finalement d'une certaine manière. Et on remarque qu'en fait tout disparaît du champ à partir de ce moment-là, comme si voilà, l'amour romantique était la seule quête qui vaille. Ça soutient une forme de projet aussi de société qui a tout intérêt à valoriser la famille biologique avec tout ce que ça permet aussi de création de valeurs, de richesses, etc. Production d'enfants, donc de petits travailleurs, d'héritage, production de travail domestique gratuit aussi. Et donc je crois qu'il y a cette idée qu'il ne faudrait pas s'éparpiller.
Tu remontes au début au Moyen-Âge et encore avant à l'Antiquité, où finalement ces relations d'amitié, elles ont toujours existé, et elles étaient même assez valorisées.
Oui.
Mais surtout pour les hommes.
Oui.
Finalement, à travers tes recherches et ce qu'on peut lire, on en ressort que l'amitié féminine a toujours été perçue comme une menace.
De manière générale, s'associer entre femmes, c'est déjà quelque part, en tout cas dans nos sociétés patriarcales, faire contre-pouvoir d'une certaine manière. Et donc c'est en soi quelque chose de menaçant dont la société a tout intérêt à se prémunir si elle veut conserver finalement le fonctionnement actuel de la société. Avec donc à plusieurs âges finalement de notre histoire, plein de mécanismes qui sont mis en place pour entraver, pour casser finalement la possibilité d'amitié entre femmes, donc qui sont exclus des grands récits d'amitié au moment où dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, l'amitié est une valeur cardinale, c'est le ciment de la cité, c'est l'espace où on peut s'élever socialement et où les femmes ne font pas du tout partie de ce récit-là. Ensuite, ce sont plein d'autres mécanismes et notamment au 19e siècle, on vient même à pathologiser finalement les amitiés entre femmes qui sont perçues comme déviantes, qui portent le soupçon du lesbianisme avec ce qui était associé au lesbianisme à l'époque par les psychologues, les sexologues, etc., qui étaient associés à une forme forme à la fois au mal absolu, mais aussi à une forme de déviance mentale qui pouvait mener à la folie, parfois au suicide. Donc en fait, associer finalement les amitiés féminines avec la possibilité finalement de cette maladie telle qu'il la percevait, qui pourrait mener à une grande folie et au désespoir, finalement je crois que c'était une manière aussi de décourager les femmes de se lier entre elles, surtout à un moment justement où c'est intéressant, c'est vers le 19e, début 20e, c'est au moment où les femmes commencent à prendre un petit peu leur envol économique, où elles pourraient, voilà, elles vont travailler exactement, et elles pourraient trouver et rencontrer, du coup, en étant hors du foyer, au travail, etc., des liens qui parfois peut-être serait plus satisfaisant que ce soit à la maison ou tout aussi satisfaisant. Et donc l'idée c'est d'arriver à les contenir encore, ouais, finalement dans le foyer.
Un besoin de dominer.
C'est à la fois un besoin de dominer et puis un truc très pratique de vouloir qu'elle puisse continuer à mener les tâches qu'on attend d'elle au sein du foyer, donc les tâches domestiques, les tâches parentales, que les femmes endossent encore aujourd'hui majoritairement dans les foyers. Et donc c'est à ce moment-là aussi que naît un petit peu l'obsession pour l'amour romantique, c'est-à-dire l'émergence de l'idéal du mariage d'amour qui est présenté, alors... Enfin, ça veut pas dire qu'avant les gens se mariaient pas par amour, mais généralement c'était pas
beaucoup des arrangements.
Voilà, c'était beaucoup des arrangements économiques, etc. Et vers le 19e siècle commence à émerger cette idée que, voilà, que le mariage c'est l'amour, que l'amour romantique c'est là où on va trouver le bonheur, c'est là où on va trouver l'accomplissement de soi. Et ça continue à être nourri par Hollywood, etc. Et cette obsession pour l'amour romantique, je crois que c'est un nouveau stratagème, une nouvelle petite tactique finalement aussi pour continuer à ce que les femmes continuent à être dans ce projet conjugal de toute leur force. Et tu disais... pourquoi en fait on ne pourrait pas penser, les choses ne s'excluraient pas forcément, les relations amicales, les relations amoureuses, mais dans la manière dont est construit aujourd'hui nos sociétés, je crois qu'en fait les amitiés, parce qu'elles sont un au-dehors, parce qu'elles sont aussi des espaces où s'expérimente parfois quelque chose de l'ordre de l'écoute parfois, de l'ordre de la mise en mouvement, on en parlera peut-être après, en fait c'est des menaces en soi. On a intérêt à les penser comme antinomiques alors que... peut-être qu'on gagnerait au contraire à penser des constellations plus variées autour de
nous. Il y a quelque chose aussi auquel tu fais allusion, c'est le fait que on est dans une société où il faut que tout ait un but, il faut produire, il faut que tout serve cette société aussi capitaliste. Tu fais un rapport avec ça. Et en fait, l'amitié, tu dis, c'est des relations en fait presque pas de l'inutile, mais tu dis c'est la vie en fait, des moments d'échange, des moments vécus qui sont pas dans un but qui sert à rien quelque part, ouais, pour la société. Et donc c'est pour ça un peu que c'est dévalorisé, et qu'on dit bon, ça c'est bien avant de rentrer dans la vraie vie, quoi.
Et en même temps ça nous permet aussi de se dire pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas justement de revaloriser, ouais, ces liens là qui ne produisent rien a priori dans une société qui nous demande toujours plus d'être toujours plus productif, etc. Je crois qu'on a le droit aussi à cette douceur là un peu inutile aux moments qui ne servent pas à grand chose, où on va regarder un film entre amis, où on va manger une crêpes en terrasse au soleil, et en fait où rien ne ressort vraiment spécifiquement en fait finalement de ces liens là. Moi je raconte dans l'ouvrage beaucoup de personnes qui se lancent dans des projets vraiment significatifs avec des amis, qui vont faire des enfants entre amis, qui vont habiter entre amis, etc. Mais je tiens aussi à dire que l'amitié elle est valable aussi dans le lien un peu de l'inutile qui ne crée pas forcément ces immenses projets d'une vie, et que s'y partage quand même un amour qui est pas productif mais qui est, je crois, essentiel, surtout aujourd'hui on voit et même demain les remous politiques qui peuvent survenir avec le changement climatique, la montée des extrêmes en Europe. Je crois qu'on va avoir besoin aussi, voilà, de ces espaces, un peu de ces endroits pour avoir des piliers en fait finalement sur lesquels se reposer, et d'un amour simple et juste d'une forme de douceur.
C'est vrai que tu parles beaucoup d'amour en fait dans celui, oui, tu dis que finalement l'amitié en fait c'est le même verbe que l'amour, c'est le verbe aimer, c'est juste un amour non charnel, mais en fait qui apporte autant. Et il y a un chapitre où tu recueilles plein de témoignages, tu vas à la rencontre de plein de gens qui décident de vraiment de vivre autrement, qui t'a même presque choqué un peu leur entourage.
Deux amies, femmes, qui ont décidé de se pacser justement pour célébrer à la fois leur lien, pour dire à leur famille, en fait... cette amie, c'est la personne qui est la plus importante dans ma vie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elles se sont pactées, il n'y a eu pas grand monde pour les féliciter, en fait, finalement, de ce pax, alors que, voilà, c'est coutume de le faire dans un pax romantique. Et donc, quelques mois après, elles se sont dit, non mais attends, c'est pas possible, on va un peu par provocation, mais aussi un peu par envie de, aussi de réexpliquer finalement à leur famille quelle importance, en fait, ça revêtait pour elles, ce pax. Elles ont décidé de faire une grande fête, une grande célébration, voilà, dans une abbaye, et avec, voilà, des témoins, des discours, voilà, elles ont recréé finalement des rites pour un lien qui n'a pas de rite en fait finalement,
oui,
pas de rite public.
De ça, ouais.
Et en fait, elles ont été extrêmement surprises de ce qui s'est déroulé dans cette fête-là, où en fait leurs proches, enfin elles ont senti une émotion monter dans la salle quoi, et leurs proches qui après sont venus les voir et leur ont dit mais en fait c'est incroyable ce qui s'est passé là et c'est peut-être ça que j'attendais depuis super longtemps en fait, qu'on a un espace on puisse célébrer nos amitiés, où on puisse se faire des déclarations finalement d'amour, d'amitié, et montrer qu'en fait ça peut être un lien essentiel qui est autour duquel on peut structurer nos vies.
Est-ce que tu penses que c'est des questions qui arrivent avec une nouvelle génération ? Est-ce que tu penses que ça peut découler un petit peu de ce qui s'est passé avec MeToo et que, par exemple, beaucoup de gens sont déçus du couple et notamment du couple hétérosexuel ? Est-ce que beaucoup de femmes qui ont été déçues ou qui ont pu souffrir, par exemple, physiquement ou matériellement ou émotionnellement, du coup, vont se tourner plus vers ces façons de construire.
Je sais pas si on peut dire beaucoup, statistiquement c'est difficile en fait de savoir quelle est la part finalement de ce phénomène, mais moi de par ma vigie notamment auprès des jeunes générations, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de monter dans une partie de la jeunesse sur cette envie un petit peu à la fois de casser un petit peu les hiérarchies relationnelles, voilà, de se dire pourquoi il y aurait une relation qui serait plus censée socialement être plus importante que l'autre, une envie aussi d'avoir un rapport plus distancié à la sexualité. Et d'ailleurs il y a un sondage qui est une enquête qui est sortie il y a pas très longtemps qui montre que les jeunes générations font moins l'amour finalement que les générations précédentes. Et puis comme tu le disais, je crois que ça découle aussi d'un mouvement post-MeToo d'interrogation du modèle du couple hétérosexuel, d'interrogation de tous les dommages aussi qui peuvent exister finalement dans ce couple là et notamment pour les femmes. Et certaines des femmes que j'ai rencontrées et qui décident aujourd'hui de mettre l'amitié au centre de leur vie ont cette interrogation là justement autour de du couple et des rôles qu'on attend d'elles en fait finalement dans le couple qui leur conviennent plus, et où elles veulent se permettre en fait de se dire en fait c'est possible de créer d'autres espaces de solidarité, de créer d'autres espaces d'affection sans pour autant renoncer à l'amour romantique forcément, sans pour autant renoncer au fait d'être un jour en couple, mais en se disant en cultivant mes amitiés je me permets de me dire si je n'ai pas un homme dans ma vie à court ou long terme, bah finalement je suis pas seule pour autant. Et ça enlève à la fois une forme de pression déjà à trouver le prince charmant, comme on a cette quête de l'amour romantique qui demande beaucoup à la fois parfois de sacrifice, de stress, parfois d'investissement financier quand on sait l'épilation, les dates, tout ça. Et puis aussi ça a permis de se rendre moins dépendante aussi finalement aussi du couple. C'est ce que me racontent ces jeunes femmes, et elles se trouvent émancipées en fait finalement par cette revalorisation de d'autres liens intimes, et en tout cas d'une constellation plus variée autour d'elles.
Et parfois de ces amitiés naissent des luttes. Il y a un paragraphe super intéressant que j'appelle le coping de lutte, et notamment tu reviens sur la naissance des collages féministes. Et donc tu as rencontré plusieurs personnes, notamment en Corse, c'est ça ?
Oui.
Et notamment une qui dit qu'un peu elle a été presque sauvée par ce groupe de femmes.
Moi je me suis vraiment rendu compte que et c'est aussi pour ça que j'étais très étonnée finalement qu'il y ait très peu de textes féministes qui parlent de l'amitié, c'est que je me suis rendu compte que les nouvelles formes de lutte féministe et de mouvement féministe aujourd'hui remettent en fait vraiment au centre les liens interpersonnels, le partage de l'intime, et les collages en font partie, mais les groupes de parole également, j'en parle aussi dans le livre, où ce qui peut se jouer d'une forme d'amitié finalement dans ces espaces-là, et aussi que ces espaces-là permettent d'accoucher aussi d'amitié, sont une expérience en fait en soi finalement de ces mouvements féministes, comme ils l'étaient en fait dans les années 70, dans les communautés de femmes notamment, où les femmes découvraient et racontent, donc, par exemple au camp de Greenham en Angleterre, où elles racontent « quand j'ai découvert ce que c'était en fait finalement réellement les relations d'amitié entre femmes, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit, c'est pas du tout la rivalité qu'on m'avait présentée, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie puissance en fait dans ces liens-là. » C'était une manière aussi de pouvoir se dire bah, « existe une réalité autre que ce qu'on appelle l'hétéronormativité, de se dire voilà, il peut exister des liens qui sortent finalement de ce processus-là. Et l'amitié est très importante dans toutes les luttes d'émancipation, pas seulement féministe, mais de nombreuses luttes sociales. C'est souvent par l'amitié en fait qu'on rentre dans les luttes, en amenant les copains, en amenant les copines, en parlant autour de soi. Et puis aussi, l'amitié est une manière de, je crois, de donner du carburant aussi aux luttes. Et les personnes que j'ai rencontrées, des militants, racontent comment ils ont eu vraiment besoin finalement de cet espace d'amitié parfois dans leur lutte pour reprendre leur souffle, pour prendre soin les uns des autres. Et la question du soin est vraiment centrale tout au long du livre, ouais, et dans la conception de l'amitié. Et dans ce qui se joue en fait finalement dans nos amitiés.
Tu as évoqué le mot rivalité, ouais. et ça c'est un passage qui m'a beaucoup parlé, parce que je pense qu'on a tous un peu vécu cette construction malgré nous par les années collège, lycée et puis ensuite. Et tu parles beaucoup du fait que quand on est enfant, on se pose pas vraiment la question du genre, et puis assez vite on va nous mettre dans des cases, par des modèles, et ce qui s'amplifie encore plus à l'adolescence. Comment en fait l'amitié se fragilise à ce moment-là?
Il y a plein de travail de sociologie, ouais, en fait, qui s'intéresse à notamment ce qui se passe dans les cours d'école et ce qui se passe dans les partitions du genre justement dans les cours d'école. Donc que ce soit des sociologues ou des psychologues aussi qui se sont intéressés à ça et qui se rendent compte en fait finalement que très rapidement, moitié de première année de maternelle, les enfants apprennent finalement les codes de genre que la société attend d'eux d'une certaine manière, ou en tout cas les représentations culturelles que les adultes vont plaquer sur elles et eux. Et donc se retrouve très vite cette scission dont tu parlais dans la cour d'école, où en fait on a beau avoir une école mixte aujourd'hui, dans la réalité les enfants, garçons et filles, vivent à côté mais comme séparés en fait, avec des activités qui sont plutôt pour les filles, des activités plutôt pour les garçons, avec cette impossibilité de l'amitié mixte qui arrive très très tôt finalement dans la vie des enfants. Et là il y a une psychologue américaine qui allait observer une classe de maternelle, et son étude est vraiment édifiante en fait finalement sur ce qui se passe en fait juste dans la socialisation des premières années, et notamment chez les petits garçons, où elle se rend compte que quand ils arrivent en maternelle, ils sont tout à fait capables de liens très signifiants d'amitié, de faire attention aux émotions des autres, de partager leurs propres émotions, etc., et de relationner avec filles et garçons, et que à la moitié de leur première année de maternelle, leur comportement commence totalement à changer, ils basculent totalement. C'est des mécanismes sociaux, c'est le contact avec les pères, c'est le contact avec les pères PAIRS, c'est le contact avec les adultes autour d'eux, c'est le contact avec les œuvres culturelles qu'ils peuvent regarder, la pop culture, ce qu'ils peuvent entendre, ce que les adultes disent aussi des enfants. Quand on a des adultes qui, sans trop y penser, à côté des cours d'école, à la sortie de l'école ou même à la maison, disent « Ah mais quand une petite fille et un petit garçon jouent ensemble, les deux amoureux, on va les marier, ceux-là ». Alors qu'ils ont, franchement, ils ont 3 ans, quoi. Enfin, c'est une manière aussi déjà d'exclure la possibilité d'amitié, finalement, entre les genres, et de plaquer toujours, voilà, une forme de script hétérosexuel sur des enfants qui étaient juste en train de jouer au tricycle ensemble, quoi. Et ce qui est fascinant, c'est que dans la classe qu'elle a observée, vraiment, elle est totalement du hasard, les petits garçons ont créé de manière automatique le club des garçons, et qu'ils appellent le groupe des méchants par eux-mêmes. Et donc c'est le club des garçons où il faut être accepté, donc correspondre finalement justement à tout ça, à ne pas se montrer trop intime avec les autres garçons, être contre les filles. Ils disent ça de manière toute simple, les enfants, pendant dans les entretiens, nous on est contre les filles. Et à partir de ce moment-là, les garçons qui pouvaient avoir des amitiés avant avec les filles vont apprendre à gommer ces amitiés-là, parfois à les cacher à contre-cœur. Il y a des petits garçons qui racontent comment c'est un déchirement pour eux finalement de plus pouvoir être amis avec des filles, mais ils disent mais si je continue à être amie avec les filles, le leader du groupe va me virer du groupe. Et donc être viré du groupe, ça veut dire de facto ne plus être un garçon, devenir une fille. Et donc avec toute cette sentence finalement de on est exclu de la masculinité, avec premiers relents homophobes en fait,
des
finalement
questions, voilà, tellement plus large de,
c'est ça,
de pourquoi dès 4 ans être une fille c'est déjà un handicap, quoi. Enfin,
oui,
c'est
ça,
ils ont déjà cette perception,
c'est une forme de dénigrement
déjà,
de vouloir se poser en par rapport finalement aux filles, et donc ne pas pouvoir être taxé d'être comme une fille ou de faire des activités de fille. Et l'amitié est perçue dans nos sociétés comme une forme d'une, enfin en tout cas l'amitié intime est perçue comme comme une activité, une affaire de filles, ouais, finalement. Et donc les enfants apprennent à se débarrasser de plein de capacités d'empathie, etc., qu'ils avaient en fait en eux au début, et à faire ce que Daisy Le Tourneur appelle une forme d'automutilation psychique, en fait, finalement, de leur capacité émotionnelle. Tout ça entraîne une multiple cascade, finalement,
parce qu'après ça peut aussi rendre des hommes qui sont pas à l'aise en couple, parce que du coup toute leur enfance et adolescence on leur a demandé de gommer du coup toute cette partie émotionnelle, et après ça fait parfois des hommes qui peuvent être socialement des ours, par exemple.
Et où la question du soin, la question de qui c'est qui écoute et qui c'est qui aide, qui c'est qui fait la psy aussi dans les relations, est souvent du coup assez déséquilibrée, quoi, encore dans nos sociétés, avec c'est souvent la compagne, ou c'est souvent l'amie femme, en fait, finalement, qui va écouter sans avoir tellement en retour une écoute pour elle-même. Et ça s'ancre, en fait, finalement, dès ces premières années-là.
Là, on parle de la petite enfance et puis du jeune âge adulte. Et en fait, tout au long de ton livre, tu découles aussi sur une vie. Et dans les derniers chapitres, tu parles du choix, en fait, de vieillir ensemble, puisque souvent, à la fin d'une vie, on est ou veuf ou divorcé. Ou... Tu parles de pas mal de statistiques aussi, où tu dis qu'il y a... plus de risques pour une femme
de se retrouver seule,
puisque souvent le mari meurt avant, ou enfin voilà. Et du coup, comment pallier à ça? Tu parles de plusieurs modèles, enfin de choses que tu as vues, entendues, et notamment d'une maison, je crois, sur Montreuil.
C'est la maison des Baba Yaga, voilà, à Montreuil, peut-être que vous connaissez. Ouais. C'est une maison où des femmes vieillissent entre elles, ont décidé de vieillir entre elles dans un projet autonome. En fait, elles vivent dans un immeuble où elles ont chacune un appartement, un studio ou un appartement dans l'immeuble, et où elles décident finalement entre elles de s'accompagner dans le vieillissement. Et donc, d'une certaine manière aussi, parfois par la solidarité, de venir pallier des placements trop précoces en institution, des placements qui seraient pas voulus en institution, et où voilà, elles participent par une aide du quotidien, en fait, finalement, les unes aux autres, par une attention du quotidien, à un mieux vieillir, à un vieillir plus digne aussi, et puis à un vieillir aussi en action, parce qu'elles elles font vivre ce lieu-là, c'est elles qui sont aux commandes, en fait, finalement, ce lieu-là, c'est pas un promoteur privé, par exemple, qu'on peut parfois l'avoir dans certaines résidences partagées, mais là, c'est vraiment elles qui font vivre la maison des Baba Yaga, avec derrière aussi une pensée féministe, avec cette idée à la fois d'offrir, c'est un logement HLM, c'est un bâtiment HLM, et donc l'idée c'est aussi de permettre aux femmes qui sont aussi généralement, qui ont les plus petites retraites, qui sont plus dans des états de précarité, de pouvoir avoir un espace de logement digne, et puis entre elles, voilà, de faire des activités aussi citoyennes, parce qu'elles sont ouvertes sur le quartier, elles créent des activités culturelles, etc., dans une partie des locaux, et ça a été monté par, ça a été pensé par une grande féministe qui s'appelle Thérèse Claire, qui est une féministe qui a monté aussi la Maison des Femmes à Montreuil, voilà, qui est une icône, un vrai féministe, un vrai personnage, qui elle s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qui se passe quand on vieillit, quoi, qui a voulu se penser un vieillir indépendant et un vieillir en amitié.
Et tout à l'heure tu parlais du soin, et justement dans ce paragraphe-là tu parles avec plusieurs des femmes de cette maison, et en fait elles expliquent un peu que pourquoi il n'y a que des femmes, et que c'est un choix aussi parce que dans l'attention portée aux autres, dans le soin, elles disent, est-ce que finalement les hommes seront capables de prendre soin des uns des autres, des unes des autres, comme on peut le faire nous, un petit peu de dire, nous toute notre vie on s'est occupé de nos maris, de nos pères, de nos fils, machin, et maintenant... c'est bon, quoi. Voilà, ouais.
Oui, d'ailleurs, ça a beaucoup créé des polémiques, en fait, finalement, le fait que la maison des Baba Yaga soit non mixte. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec Thérèse Claire sur cette question-là. D'ailleurs, certaines Baba Yaga aussi qui n'étaient pas forcément d'accord avec ça. Mais Thérèse Claire, elle n'en a pas démordu. Elle a dit exactement ce que tu viens de dire là. Elle le dit avec des mots un peu plus crus, parce que c'est une femme cash.
Oui, c'est dedans, je voulais
Voilà. Mais oui, voilà. Donc ça, c'est ce projet-là. Mais par ailleurs, je raconte aussi d'autres projets qui sont mixtes pour le coup, où ce sont notamment en Ille-et-Vilaine des 6 couples qui ont décidé de s'installer sur un terrain, de se recréer des petites unités privées et de vivre tous ensemble, en fait, finalement, sur ce terrain-là, et de vieillir ensemble à cet endroit, avec également un projet social à côté où ils accueillent des mères isolées, et aussi plein de projets culturels, etc. Avec encore une fois cette idée de bah, rester dans le monde, en fait, finalement, d'une certaine manière. Ce qu'on dénie aussi beaucoup, finalement, aux personnes âgées. De dire, entre nous, on met toutes nos forces en commun pour continuer à créer, pour continuer à faire partie des réflexions citoyennes aussi du coin, voilà.
On est largué ou quand on vit une rupture, tout le monde est là, enfin, dans le meilleur des cas, avec un mouchoir ou un pot de glace, ou en tout cas, on peut être entouré, alors que tu expliques qu'une rupture d'amitié, ça peut être tout aussi violent. Oui. Et là, par contre, on te dit, oui, bon, c'est bon, enfin, voilà, il n'y a pas de... alors que je pense qu'on a peut-être tous vécu à un moment donné, comme ça, une fracture avec quelqu'un qui partageait notre vie depuis très longtemps. Et ça laisse des traces, en fait, sur toute notre vie d'adulte, même après, enfin...
Et c'est beaucoup moins pris au sérieux, mais aussi par nous-mêmes. Je crois qu'on ne se laisse pas toujours l'opportunité de faire son deuil, etc. De la même manière qu'on le ferait avec une relation amoureuse. Et ça, c'est aussi parce qu'on n'a aucune représentation de rupture amicale. Enfin, vraiment, c'est fou à quel point, voilà, on ne représente pas ça, on ne cartographie pas ça. Et donc, ça nous empêche aussi d'avoir... De penser vraiment ces moments-là de fin, au point aussi, je crois, de laisser la relation aussi se déliter parfois, les relations d'amitié, les laisser se déliter un petit peu sur toute seule, sans mettre de point final, avec beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui de phénomène de ghosting, voilà, où certains vont un peu disparaître de la vie des autres et faire le fantôme, dans ne plus répondre aux messages, etc. Et laisser, voilà, la relation s'éteindre comme ça, mais en fait, en réalité, c'est parfois encore plus douloureux de ne pas avoir de point final qui est mis. Et je crois que le fait qu'on pense peu ces choses-là, ça montre aussi à quel point on fait peu de cas, finalement, de l'amitié dans nos sociétés, et à quel point c'est pas considéré comme une chose importante, alors que vraiment, je crois que ça a une marque très puissante.
Les femmes, ensemble, révoltons.
Merci pour votre écoute. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode avec Éléonore Baud, professeuse de français qui questionne le genre dans la langue. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur n'importe quelle plateforme de diffusion. La colère.